Retrouvez toutes vos émissions préférées en podcast en téléchargeant dès à présent l'application Mon Paris FM sur Apple Store ou Play Store. Radiophoniquement.
Mon Paris FM.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette table ronde Mouvement d'engagement aux côtés des parcours de migration. Je suis Léa Nougier, chargée de mission Vie associative et société pour la Fédération de Paris de la Ligue de l'Enseignement. Et j'ai le plaisir aujourd'hui de modérer cette rencontre aux côtés de Nassima Bellili, directrice du Centre Paris Anime Louis Lumière dans le 20e arrondissement. Cette commodération, elle est importante parce que le Centre Louis Lumière, il possède un centre d'hébergement qui a pu accueillir des mineurs non accompagnés. Nassima, est-ce que tu peux un petit peu nous raconter en introduction comment ça s'est passé et pourquoi ?
Bien sûr, bonjour tout le monde. Alors nous, au Centre Louis Lumière, en effet, on a un centre d'hébergement qui, de base, accueillait du court séjour touristique et qui, à certains moments, donc, a été mis à disposition pour des associations pour de l'hébergement social. Et en effet, on a accueilli via France Terre d'Asile les mineurs non accompagnés. Pour lesquels on a pu aussi découvrir leur quotidien, leur questionnement et tout ce qui se passe sur leur parcours complet. Et là où on a pu se rendre compte, c'est que grâce à des associations et des structures comme la Maison des Réfugiés, des solutions d'accompagnement sont mises en place. Et c'est le but aujourd'hui de mettre en lumière ces parcours de vie. Et donc aujourd'hui, à la Maison des Réfugiés, nous mettons à l'honneur ces parcours de vie des apprenants et des apprenantes de FLE de nos centres Paris Anime, mais aussi de celles et ceux qui s'engagent ensemble pour accompagner ces parcours, donc vous qui êtes autour de la table, et encore plus loin, tous ceux qui ne sont pas autour de cette table, mais qui accompagnent au quotidien ce public. Donc nous avons réuni autour de cette table Léna Chavanne, qui est réalisatrice d'un podcast « Jeunes en exil, mineurs en lutte », CM Elgour, Product Owner, c'est ça, chez Aliatech, Gaëlle Mauroy, qui est coordinatrice du CASNAV à l'Académie de Paris, Saturnin Barré, metteur en scène de la pièce de théâtre Hercule et les missives, et nous excusons Maud Kameni, qui n'est pas présente avec nous, mais qui a travaillé avec nous sur cette table ronde, qui est coordinatrice du pôle accueil et solidarité de l'association WASLA. Merci encore d'avoir répondu présent à cette invitation. Et on va commencer. Et on va commencer par toi, Gaëlle. Tu es coordinatrice du CASNAV à l'Académie de Paris. Tu représentes aujourd'hui le versant institutionnel de l'accompagnement des personnes exilées. Peux-tu nous dire quelle forme prend l'action du CASNAV au quotidien pour les élèves issus de ce parcours de migratoire et de la communauté voyageuse, ainsi que de leurs proches ?
Bonjour, le CASNAV, ça signifie Centre d'accueil et de scolarisation des élèves nouvellement arrivés et des enfants issus de familles de voyageurs. Il s'agit d'un service qui fait partie du rectorat de l'Académie de Paris. Il en existe dans tous les rectorats. Nous nous occupons en effet d'accueillir et de scolariser les enfants dans des dispositifs spécifiques qu'on appelle les UPE2A, unités pédagogiques pour élèves arrivant allophones. Nous accueillons et nous suivons l'ensemble du parcours de ces élèves depuis leur arrivée, leur évaluation, l'évaluation de leur niveau de français, puis leur parcours dans le dispositif. Nous nous occupons de leur apprendre le français, de les familiariser avec les codes scolaires qui leur permettra de suivre au mieux un parcours d'école, d'alphabétisation le cas échéant, de préparer les diplômes, soit le DELF, le diplôme d'études en langue française, mais aussi les diplômes de l'école française. Et c'est important aussi de le signaler, le CASNAV permet également de former les enseignants, soit dans des dispositifs spécifiques, mais aussi dans les classes ordinaires, parce qu'accueillir et scolariser des élèves allophones, c'est non seulement les accueillir au début de leur parcours, mais continuer de les suivre tout au long de leur scolarité.
Merci beaucoup Gaëlle. Dans ce que tu nous racontes, dans ce que tu nous partages, il y a déjà cette notion de complémentarité qui joue un véritable rôle dans l'accueil, l'accompagnement de ces élèves. Et face à des réalités telles que celles rencontrées par les élèves, les associations vont aussi jouer un rôle relativement complémentaire. C'est ce que nous rapporte Molka à travers le récit qu'elle nous a partagé avec l'association WASLA. Au sein de WASLA, qui est installé à La Bulle, donc Maison des Solidarités LGBTQI+, au 22 rue Malherbe, dans le centre de Paris, on accompagne des publics vulnérables, exilés, LGBTQI+, qui proviennent de la région MENA, donc du Moyen-Orient, de l'Égypte et du Maghreb. Et la particularité de WASLA, c'est d'offrir des accompagnements arabophones, que ce soit pour la demande d'asile, le suivi psychologique, mais aussi pour l'ensemble des activités menées par WASLA. Tous les dialectes sont couverts et sont compris grâce à l'ensemble des bénévoles qui peuvent se mobiliser pour l'association, qui viennent de pays différents et qui possèdent donc la connaissance de ces différents dialectes. Des personnes sont accueillies donc pour des activités ludiques et artistiques lors des goûters mensuels du WASLA Café, les troisièmes samedis du mois, mais aussi lors des cours de danse qui ont lieu tous les mardis. Nous en reparlerons à travers les questions d'art et de culture ultérieurement. Donc, les bénéficiaires peuvent profiter de ces activités pour s'ouvrir à une communauté et lutter contre l'isolement. C'est quelque chose qui est très important pour WASLA. Et surtout, WASLA, donc, étant au sein de La Bulle, étant une association membre de La Bulle, elle agit en complémentarité d'autres associations, et notamment l'association LARDIS, qui va accompagner les couples et les familles homoparentales dans l'accès à la demande justement et à l'accès aux droits, notamment sur les questions de permanence, où les bénéficiaires de WASLA peuvent être retransmis. Donc à l'ARDIS. L'ARDIS mène aussi des ateliers qui peuvent être bénéficiés par les personnes qui sont chez WASLA, notamment la préparation à l'entretien de l'OFPRA. Donc c'est déjà quelque chose qui va être assez important tout au long de cette journée que nous avons aujourd'hui à la Maison des Réfugiés, puisque l'OFPRA, on va en reparler avec la pièce Hercule et les missives ce soir à 19h qui sera jouée de nouveau. Il y a aussi le Flirt qui accompagne WASLA. Donc c'est un collectif d'aide mutuelle entre personnes transféminines avec lesquelles WASLA peut se réunir pour notamment documenter les bénéficiaires de WASLA sur la prise d'hormones, l'accompagnement médical et de santé. C'est quelque chose dont on reparlera aussi. On va faire beaucoup de liens cet après-midi entre vos différentes structures, mais on reparlera de santé avec Aliatech. Pour l'accompagnement aussi des prises d'hormones et les rendez-vous chez les différents médecins, donc le Flirt, c'est l'allié principal de La Bulle sur les questions qui concernent la transition de genre. Il y a tout un réseau d'associations au sein de La Bulle et à l'extérieur de La Bulle qui permet en fait d'avoir des compétences et des expertises différentes. Il est aussi possible d'orienter les bénéficiaires vers des activités que proposent d'autres associations, car il n'y a pas que l'accompagnement et l'outillage, l'accès aux droits, mais aussi l'ouverture vers la culture qui est importante dans cette complémentarité. Donc là, on a un bel premier exemple de coopération, mais la complémentarité dans l'accompagnement des personnes en exil, elle peut prendre plusieurs formes. Et c'est là qu'on va pouvoir faire un pont avec ce qui se fait chez Aliatech, avec Aliatalk, puisque SIEM, vous proposez donc avec Aliatalk une solution d'accompagnement vers l'autonomie des personnes exilées. Aliatalk, c'est une application de traduction instantanée. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer comment est née cette idée et quel impact elle peut avoir pour les professionnels et aussi pour le public?
D'accord, alors merci beaucoup Léa. L'idée est née d'un constat de terrain très concret. Et la fondatrice d'Aliatech, elle est d'origine tunisienne. Et depuis qu'elle est petite, elle voyait ses grands-parents en France devant être accompagnés à chaque fois par un membre de la famille pour aller à l'hôpital, pour aller chez le médecin. Et parce qu'ils ne maîtrisent pas bien le français. Et ça l'a toujours interpellée. Et plus tard, en échangeant avec des professionnels de santé, et il s'est rendu compte qu'il y avait vraiment ils avaient tous le même problème, c'est la barrière de la langue. Et surtout qu'il n'y avait pas vraiment de solution idéale. Enfin, les interprètes, par exemple, ils sont chers et pas toujours disponibles. Ils ne maîtrisent pas tous les dialectes et toutes les langues. Et Google Traduction, de son côté, c'est pas conforme au RGPD, surtout dans un contexte médical. Et l'autre solution, c'est souvent que les patients, ils sont accompagnés par des membres de la famille. Mais là, on parle encore du troisième personne, donc on respecte plus le secret médical. Et aussi, en fait, parfois, par pudeur ou dans certaines cultures, ça peut être gênant. Une femme, par exemple, dans une visite chez un gynécologue, et si son fils qui traduit pour elle, il ne sera pas à l'aise. Donc, c'est pas vraiment la solution idéale. Et c'est là où l'idée est née. Et comme la fondatrice, elle est ingénieure et data scientist, elle a décidé de travailler sur le projet depuis 2019. Et afin d'exploiter ses compétences et développer une solution de traduction médicale et instantanée et qui prend en considération la culture du patient. Et notre vision aujourd'hui, c'est démocratiser l'accès aux soins pour les personnes qui ne parlent pas le français. Donc voilà.
Merci beaucoup, Siem. C'est vrai que c'est un très beau projet, un projet très noble pour les personnes exilées, pour participer à leur autonomisation. C'est quelque chose qui est très important. Au-delà des personnes qui sont bénéficiaires de Alia Talk, il y a aussi de belles histoires, puisqu'accompagner les situations d'exil, c'est aussi parfois clé des opportunités. Actuellement, chez Alia Tech, vous accueillez un alternant qui est présent aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous raconter l'histoire de son recrutement, de son accueil ?
Oui, effectivement, c'est Yacouba, il est juste là. Et, enfin, c'est un jeune qui a 18 ans aujourd'hui. Alors, il nous a récemment rejoint et chez Alia Tech. Alors, il est arrivé en France en 2023. Et il a seulement 15 ans. Il est venu tout seul de Guinée. Et quand il est arrivé, il ne parlait pas du tout le français. C'était très difficile pour lui de communiquer, de demander de l'aide, de comprendre les gens. Il communiquait beaucoup avec des gestes, voilà, le langage des signes. Mais on sait tous que ce n'est pas évident. Et surtout quand on est seul dans un nouveau pays. Mais malgré tout ça, en seulement 2 ans, il a réussi à se scolariser, à continuer ses études, à apprendre le français. Il parle couramment le français. Et il a pu s'intégrer. Donc aujourd'hui, il prépare son bac professionnel en informatique, et elle est en alternance avec nous. Bravo Yacouba. En fait, il n'a pas abandonné, il est très courageux, il est très intelligent. Et grâce au réseau et aux rencontres, il a pu nous rejoindre. En fait, je pense que son histoire représente très bien la réalité de beaucoup de jeunes exilés. Et beaucoup de difficultés au début, mais aussi beaucoup de courage, de volonté et du potentiel si on leur donne les bons outils et les bonnes opportunités.
Merci Siem pour ton témoignage qui nous rappelle que l'accès au droit est un parcours très compliqué et on sait qu'il peut l'être d'autant plus pour les jeunes. Léna, toi tu es réalisatrice. Et pour ton podcast « Jeunes en exil, mineurs en lutte », tu as suivi un collectif de jeunes MNA en recours à Lille dans leurs revendications. Est-ce que tu peux nous décrire un peu leur quotidien et nous expliquer ce qui t'a amené à réaliser ce podcast ?
Oui, du coup, bonjour. Moi, il faut que je précise quand même quelque chose pour vous parler du podcast. C'est que les jeunes que j'ai suivis, c'est effectivement des mineurs isolés ou des mineurs non accompagnés. Mais eux, déjà, choisissent le terme de mineurs isolés plutôt que de mineurs non accompagnés. Et la particularité qu'ils ont, c'est que c'est des mineurs isolés en recours. Donc, c'est des jeunes qui sont arrivés en France, qui sont étrangers, qui ont fait l'évaluation de minorité qui est à la charge du département et qui n'ont pas été reconnus mineurs par ce département-là. Suite à ça, ces jeunes, ils ont la possibilité de faire un recours, comme pour n'importe quelle procédure juridique qu'on a en France. Et ce recours, en fait, est très long. La procédure, elle va durer de 6 mois à 1 an, pendant lesquels les jeunes sont dans un flou juridique. Comme l'évaluation du département ne les a pas reconnus mineurs, ils ne sont pas pris en charge par l'aide sociale à l'enfance. Et comme ils sont dans la procédure de reconnaissance de leur minorité, ils ne sont pas reconnus majeurs. Et du coup, ils ne sont pas pris en charge par la préfecture, qui est censée mettre à l'abri les majeurs, même si on connaît toutes les difficultés que ça pose au niveau du 115. Mais voilà, du coup, c'est des jeunes qui sont dans un flou juridique et qui, du coup, n'ont pas le droit à l'hébergement, à la scolarité, à l'accès à la santé, à l'accès à la nourriture. Donc juste pour poser ce contexte-là, que c'est une situation qui est extrêmement délicate. Et moi, j'ai fait mon documentaire à Lille, où du coup, depuis 10 ans, il y a une association qui s'appelle Utopia 56 Lille, qui vient en aide aux personnes exilées, et notamment aux mineurs isolés. Donc ça fait 10 ans qu'il y a cette association qui est présente, qui soutient les mineurs isolés. Et jusqu'ici, c'était vraiment les associations qui portaient les voix des jeunes auprès des institutions et des pouvoirs publics pour les interpeller, leur dire « bah voilà, il faut héberger ces jeunes ». Parce que leur réalité, c'est quoi ? C'est qu'en fait, ils vont dormir très souvent dans des camps, dans la rue, donc vraiment des camps de fortune. C'est des camps avec des tentes que nous, on va utiliser peut-être une semaine l'été pour le camping. Sauf que là, c'est des tentes sur des palettes en plein mois de février. Dans un parc où il n'y a du coup pas d'accès à l'eau, pas d'accès à l'électricité, pas de sanitaire, pas de douche. Il y a des rats qui viennent grignoter les tentes. Enfin, c'est vraiment des conditions qui sont vraiment qu'on n'imagine pas et qui sont extrêmement précaires. Il y a certains de ces jeunes qui sont hébergés chez des hébergeurs solidaires, certains par des associations. Mais du coup, ça reste un environnement vraiment très précaire. Et donc voilà, c'était les associations qui portaient les voix de ces jeunes. Moi, j'ai été longtemps bénévole à Utopia 56 quand je vivais à Lille. J'ai déménagé à Paris. Et une amie à moi, Marie, qui est coordinatrice de l'antenne, m'a expliqué il y a du coup en novembre 2024 que les jeunes de l'antenne de Lille avaient décidé de créer un collectif pour porter eux-mêmes leurs revendications auprès des institutions, donc mairie, département, préfecture, parce qu'il faut savoir que ces institutions du coup se renvoient toute la balle sur le fait qu'il faille prendre ces jeunes en charge, donc elles vont se renvoyer la responsabilité. Et donc elle m'explique que ces jeunes, ils ont créé un collectif qui s'auto-organise entre eux, qui font des AG, qui organisent des manifestations, des rassemblements, etc. Et moi, à ce moment-là, je suis en formation à l'INA, donc l'Institut National de l'Audiovisuel, en réalisation podcast et radio. Et j'ai un podcast à faire pour cette formation. Et du coup, ça me paraît assez évident à ce moment-là de me dire, je vais aller suivre la mobilisation de ces jeunes, la création de leur collectif, comment ils s'organisent et comment, en fait, ils ont réussi à créer un rapport de force qui est complètement inédit avec les institutions. Parce qu'en 10 ans, ils et elles n'avaient vraiment rien obtenu en termes de places d'hébergement. Depuis que ce collectif a été créé, je pense que là, aujourd'hui, on doit être quasiment à 200 places d'hébergement qui ont été obtenues. C'est encore loin d'être suffisant. Il y a encore des jeunes qui vivent dehors dans des tentes à Lille aujourd'hui. Donc, ça ne suffit pas. Mais ça a quand même créé quelque chose et ça a pu susciter... En tout cas, des prises de position de la part des institutions qui n'y avaient pas avant. Voilà.
Merci. La question suivante, c'était: cette rencontre nourrit-elle ton action en tant que bénévole à l'association Utopia 56 à Paris aujourd'hui? Mais en écoutant ta réponse, je me dis que tu as été nourrie avant et tu es nourrie après, je pense, cette expérience. Qu'est-ce que ça t'a apporté? Et est-ce que ça a un impact aujourd'hui sur toi et ta manière de voir les choses en tant que bénévole?
Je pense que ce podcast, il a été vraiment important pour moi, dans le sens où à Lille, j'étais beaucoup sur des missions de bénévolat de maraude ou de mise à l'abri. Du coup, il y avait un téléphone d'urgence. On allait récupérer les jeunes qui étaient mis dehors après leur évaluation. Du coup, soit on se retrouvait à installer des tentes. Enfin, c'était des choses quand même assez difficiles. On se retrouve à installer des tentes en février pour des jeunes parce qu'on n'a pas trouvé d'hébergeurs solidaires. Nous, on a beaucoup accueilli chez nous aussi des jeunes, mais du coup, c'était des trucs très concrets, accompagner à l'avocat, accompagner aux rendez-vous médicaux, etc. Et je pense que le podcast, pour moi, ça a été aussi une manière de m'engager différemment à leur côté et du coup de plus être juste sur palier des besoins vitaux, même si c'est essentiel. Et je continue d'être bénévole à Utopia 56 Paris aujourd'hui pour justement soutenir cette solidarité envers ces personnes. Mais c'est surtout aussi... prendre le temps de discuter avec eux et elles, de leur donner la parole, de les écouter et surtout d'essayer de transmettre leur parole. Et du coup, c'est pas du tout la même forme d'engagement. Enfin, je le vois comme du bénévolat parce que j'ai fait ce podcast de manière complètement bénévole. Mais moi, je pense que pour moi, c'était important aussi d'agir sur différents volets, le volet très concret et le volet plus plaidoyer, plus politique, plus diffusion, à essayer aussi de mobiliser les personnes que je connaissais pour se renseigner sur les réalités de ces jeunes, en l'envoyer à des radios, en parler plus globalement, quoi.
Ouais, il est clair que c'est un vrai travail de visibilité que tu fais comme Saturnin. Exactement. Tu as souhaité, toi, faire entendre les voix. C'est une autre forme de visibilité que tu mets en avant. Tu as souhaité faire entendre ces voix de personnes exilées sans forcément orienter leur prise de parole ou en être un intermédiaire. Est-ce que tu peux nous présenter brièvement le projet Hercule et les missives et nous dire ce qui est important dans le fait de visibiliser justement leur regard sur la société?
Oui, tout à fait. Avec plaisir. Bonjour. Moi, je suis arrivé un peu par hasard à la rencontre de ces jeunes. Ma compagnie de théâtre était installée dans une maison de quartier à Auxerre, en Bourgogne-Franche-Comté. Je raconte souvent cette histoire parce que ça a commencé comme ça, vraiment. J'entendais des cours de FLE dans le bureau à côté, tous les mardis et tous les jeudis. On n'était pas seul, le comédien Ludovic Femenias et une autre metteuse en scène, Virginie Soum. On a un peu franchi la porte, on était curieux. Alors voilà, la compagnie était installée dans une maison de quartier, c'était déjà une démarche importante de travailler dans les territoires éloignés des offres culturelles ou des dynamiques culturelles. Et du coup, on a continué, accompagné par le directeur de la maison de quartier, où on a rencontré les professeurs de FLE d'abord, et puis ensuite les participants. Il y avait beaucoup de jeunes, des fois aussi des mamans qui ne parlent pas français, mais qui vivent en France depuis longtemps. Et puis, nous, on est une compagnie de théâtre, tout simplement, et on a le moteur premier, c'est qu'on a eu envie de leur proposer de se rencontrer au travers du théâtre. Alors d'abord, de l'éveil théâtral, sans parole. la scène et l'expression corporelle et autres. Et puis, quand même, est vite arrivée la question de la problématique dans la rencontre artistique qu'il et elle puissent s'exprimer. Et c'est là que l'idée des lettres, en fait, de l'écriture de lettres est apparue. On a tout de suite, ce qui est vraiment très important, essayer d'être dans une recherche d'expression libre, humaine et d'écriture artistique. Parce qu'il y a tout de suite sinon un risque d'explication des récits de vie, des parcours migratoires et qui peut être à notre endroit, nous, même pas gênant, mais où on sent qu'on n'est pas à notre bonne place, quoi. Créer du théâtre, c'est pas, pour moi, c'est pas enquêter, c'est plutôt inventer. Et donc, j'ai essayé vraiment dans l'écriture des lettres, prendre un temps à part avant le théâtre, vraiment de temps d'écriture, d'inventer une lettre. Je dis bien ce mot-là, quoi, pour leur donner toute liberté dans l'adresse. Un destinataire, un ou une destinataire, qui soit un être humain ou qui soit un objet du passé ou un projet dans le futur ou un animal ou une figure politique, un destinataire à qui on a vraiment besoin, nécessité de dire quelque chose. Voilà, ça se situe de façon très complémentaire au cours justement de FLE, où bien sûr on a rencontré beaucoup de jeunes en UPE2A, parce qu'on a fait beaucoup de projets avec des collèges, des fois des écoles d'ailleurs, élémentaires, parce que ça commence aussi dès l'école, et des lycées. Et puis ce qui est important pour comprendre le projet Hercule et l'émissive, pour essayer de répondre à peu près à ta question, c'est que en fait ça a commencé comme ça. Le projet, il s'appelait Missive, c'est-à-dire inventer des lettres avec des personnes réfugiées, des mineurs non accompagnés ou des demandeurs d'asile en CADA ou des mamans qui vivent depuis 30 ans en France et qui se mettent à apprendre le français. Inventer des lettres. Et c'est parce qu'on avait, au bout d'un certain temps, plusieurs années même en fait, beaucoup de lettres, beaucoup de... et que même si on les accompagne à chaque fois sur la mise en voie publique, quand même, il y a une fois, comme ça sera le cas d'ailleurs ce soir, où ils lisent leurs lettres, ceux et celles qui veulent, hein, en public. Mais après, en fait, toi, en tant qu'auteur, ça te reste dans l'ordinateur, ça reste... c'était pas possible. Et c'est pour ça qu'on a pris la décision de créer la décision initiale d'Hercule et l'émissif, c'était créer un spectacle de théâtre de nature professionnelle qui serait interprété par un comédien professionnel mais dans lequel il y aurait certaines de ces lettres. Voilà, pour peut-être, alors c'était déjà en 2018, donc là les lettres qu'il y a dans Hercule et l'émissif, elles sont comme un relais 7 ans après vers le public. Et donc ensuite Hercule et l'émissif, voilà, c'est un texte écrit pour un comédien professionnel avec un personnage, un officier de l'OFPRA, comme tu le disais. Je ne raconte pas trop l'histoire ici, mais qui a toute légitimité artistique et littéraire en fait, pour s'emparer de ses lettres et les faire entendre en public.
Merci. Je reviens juste sur ce terme visibilité. Moi, je vous invite à rester avec nous tout au long de la journée pour pouvoir découvrir ces lettres, l'expo photo et le seul en scène à 19h. Et je vous invite aussi à écouter le podcast de Léna, qui est très intéressant et très immersif. On en parlait tout à l'heure. Je reviens vers toi, Léna. Est-ce que tu souhaites réagir sur cette manière de rendre visible et pour toi l'importance que ça a de rendre visible ces combats? On en parlait tout à l'heure sur des personnes, et tu l'as bien dit, isolées. Ce terme est important. Et vous, par votre art, vous rendez les choses accessible au grand public pour qu'ils puissent voir. Est-ce que toi, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ça, sur ce grand mot de rendre visible l'isolement, si on peut dire?
Déjà, je pense que les personnes exilées, d'une manière générale, sont invisibilisées globalement, c'est-à-dire dans l'espace public. Ça va être des personnes qui vont dormir dans des camps, dans des bois, sous des ponts, etc. Donc, c'est pas forcément des personnes... Enfin, ça peut être visible, je pense à Stalingrad, en tout cas. Enfin, ça peut être visible à certains endroits, mais globalement, c'est plutôt invisible. Et médiatiquement, ces personnes sont soit complètement invisibilisées, soit totalement on a une image d'elle qui est complètement déformée, qui est associée à des crimes. Enfin, voilà, c'est extrêmement violent. Et du coup, c'est d'autant plus important de prendre le temps et de prendre un vrai temps. C'est-à-dire pas de leur donner la parole pendant 30 secondes, une minute, et voilà, se satisfaire de ça. Enfin, je pense notamment au camp à Lille, suite auquel a été créé le collectif de Bois Blanc. Il y avait 70 jeunes qui dormaient dans des tentes. Il y a France 3 qui est venu faire un reportage que j'ai écouté. Reportage voilà, très factuel, comme vous pouvez l'imaginer, qui dure une minute. Qui donne la parole à un jeune pendant 20 secondes, couvre sa tente et qui explique voilà ce qui se passe. Voilà, c'est à la fois bien de montrer leur réalité, mais on est vraiment toujours sur le même registre. On leur donne jamais vraiment la parole longtemps, on leur donne jamais la possibilité de voilà s'exprimer. Et donc je pense que c'est hyper important de le faire d'une manière ou d'une autre. Ouais, voilà, c'est tout.
Bah, c'est très bien. Mmh. En tout cas, merci à vous de rendre. De remettre l'humain au centre de tout ce combat. Et on parlait tout à l'heure de la barrière de la langue. Gaëlle, est-ce que toi, tu peux nous expliquer comment est-ce qu'on accompagne un élève primo-arrivant pour qui la langue est une barrière et qui, du coup, empêche d'aller vers les autres et empêche aussi sur ce parcours-là, mais des barrières sur ce parcours?
Oui, déjà, ce qui est important peut-être de rappeler et de préciser, c'est que l'organisation d'une scolarité pour un élève arrivant allophone, elle est fondée sur le principe de l'inclusion. Donc c'est vrai qu'on va passer par le dispositif de l'UPE2A pour renforcer et perfectionner ou l'initier à la maîtrise de la langue française. Mais on a tous en tête dans l'organisation du parcours scolaire que le but, c'est d'inclure le plus vite possible et le mieux possible l'élève dans un parcours scolaire ordinaire. Bien évidemment, ça va passer d'abord par une prise en compte de ses besoins linguistiques et langagiers avec ce passage par le dispositif UPE2A, où là, on va mettre en place une approche pédagogique spécifique de renforcement de l'enseignement du français. Ça va passer par du français langue étrangère avec des techniques d'apprentissage spécifiques qui vont être fondées sur le recours à des méthodes pédagogiques, à des supports authentiques, à une importance accrue donnée à l'oral, au recours aussi à de la pédagogie de projet. On va passer par des intervenants extérieurs, du théâtre, de l'art, voilà, qui vont permettre de développer les compétences de vocabulaire, de grammaire, pour que les élèves comprennent et apprennent le mieux. Ça va passer aussi par un enseignement très explicite, très étayé. On va tout reformuler, on va tout redéplier, on va aller plus doucement avec nos élèves allophones. On va explorer des ressources pédagogiques variées, on va emprunter à la didactique du français langue étrangère, je l'ai dit, mais le plus vite possible et le mieux possible, on va aller vers le français langue maternelle, puisque je l'ai dit, le but c'est de les inclure le plus vite possible. Donc on va faire travailler nos élèves sur des manuels scolaires, sur la compréhension des consignes. On va les faire travailler sur toutes les disciplines, même celles qui sont dites non linguistiques, parce que pour faire des maths, des sciences, de l'EPS, eh ben on a aussi besoin de bien parler, de bien comprendre le français. Donc l'enseignant du PE2A, il va aller, entre guillemets, piocher vers toutes ces approches-là pour favoriser le plus vite possible et le plus efficacement possible l'explicitation des contenus et permettre aux élèves non francophones, allophones, de comprendre le mieux possible. On va aussi travailler sur la langue d'origine de nos élèves. On va valoriser leur plurilinguisme, leur culture, et on va essayer de mettre en œuvre un travail de différenciation, d'étayage, en passant souvent par un parcours qui va de l'oral vers l'écrit. Et on va aussi céder des ressources du numérique pour essayer de faire en sorte d'offrir le maximum possible d'outils pour favoriser les apprentissages de nos élèves, adapter nos contenus, nos modalités d'évaluation. Et c'est la raison pour laquelle je disais tout à l'heure que ça passe aussi par un travail de formation des enseignants, des UPE2A, mais des classes ordinaires. Parce que c'est vraiment l'idée de concevoir ce travail comme un parcours d'apprentissage progressif, adapté et individualisé aux besoins de tous nos élèves, quel que soit leur parcours scolaire et leur niveau et leur langue d'origine aussi.
Gaëlle, tu nous parles d'adaptation, tu nous parles de parcours, tu nous parles de variété. Le premier tour d'horizon que nous venons de faire nous permet de vraiment valoriser et de mettre en lumière la richesse de ce que vous réalisez, la diversité de vos actions, mais aussi le fait qu'entre vos différentes actions, il est possible de créer des ponts, que les liens possibles entre vous sont vraiment très nombreux. Et c'est ce qui va nous occuper durant cette deuxième partie de table ronde, puisqu'on va s'occuper et traiter de vos chemins croisés. On va pouvoir échanger de véritablement les interconnexions qu'on peut trouver entre vous et qui peuvent nous permettre de faire ensemble à l'avenir. Par exemple, quand on parle d'Aliatech, mais aussi de Wasla, que je représente aujourd'hui pour Molka, ce sont deux associations de structures qui ont une activité dans le domaine de la santé qui est différente, mais qui sont notamment portées par un accompagnement concret et factuel. On a des permanences psy, notamment chez Wasla, association pour laquelle la santé mentale est un volet extrêmement important. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Le nombre de demandes de suivi psychologique est en augmentation constante depuis maintenant 2 ans chez Wasla et la création du programme d'accueil qui est porté notamment par Molka, ce qui est difficile pour les bénéficiaires de l'association et pour les patients des psychologues bénévoles de Wasla. C'est de trouver une personne qui puisse non seulement comprendre leur dialecte, on a parlé de la variété des dialectes arabophones, on a parlé de la possibilité aussi d'y trouver une personne qui corresponde à la langue qu'on parle. Mais c'est aussi une difficulté de ne pas maîtriser le français qui est à trouver. Donc, comment verbaliser finalement les difficultés que l'on peut rencontrer à l'intérieur de soi lorsqu'on n'a pas les mots pour le faire ? C'est pourquoi Wasla essaye d'avoir cette ressource importante qui permette d'avoir les mots justes et de pouvoir être accompagné dans ces problématiques. Il y a aussi beaucoup de personnes, parce qu'on parle là des personnes arabophones, mais on a aussi des personnes qui sont queer, des personnes qui sont de la communauté LGBTQIA+, qui se disent libérées et soulagées de pouvoir parler de leur identité, que ce soit de leur identité de genre, de leur orientation sexuelle, en arabe, avec les termes qui leur correspondent et auxquels ils et elles s'identifient, chose qu'ils ne pouvaient s'imaginer faire en arrivant en France. C'est un enjeu fort pour Wasla qui va offrir à ces personnes migrantes la chance d'être accompagnées gratuitement par des personnes qui comprennent leur parcours et qui partagent les mêmes communs linguistiques. Actuellement, il y a 4 professionnels qui font un travail incroyable chez Wasla et que nous saluons. Et Molka me rapportait aussi qu'elle pense aujourd'hui et elle soutient qu'on ne parle pas assez de la santé mentale des personnes migrantes, surtout après tout ce qu'elles traversent dans leur parcours. Au-delà de leur identité queer, il y a aussi toutes les difficultés que l'on rencontre dans une arrivée dans un pays d'accueil. L'intégration qui, pour la plupart du temps, peut être difficile. On a parlé de la difficulté de ne pas avoir acquéri la langue. Si la langue n'est pas maîtrisée, l'idée de la solitude, la notion de solitude, le fait de se retrouver isolé dans un pays où on n'a ni attache ni repère. Tous ces facteurs sont d'une grande charge mentale pour les personnes migrantes et aujourd'hui, ils sont aussi silenciés par certaines personnes qui ne savent pas où taper à la porte pour trouver une aide et un soutien. Siem, de ton côté, est-ce que c'est un point de vue que tu partages ?
Oui, alors je rejoins complètement Molka. On parle souvent de la barrière de la langue, mais on oublie qu'il y a aussi une barrière culturelle. Et dans la santé mentale, c'est encore plus vrai, parce qu'on parle d'émotions, de traumatismes, d'identité, de choses très intimes. Et pouvoir parler avec quelqu'un qui comprend non seulement ta langue, mais aussi ta culture, ton parcours migratoire, ton histoire, ça change tout. Surtout qu'on ne s'exprime pas tous de la même manière, on n'utilise pas tous les mêmes mots, on n'a pas les mêmes références culturelles pour parler de la dépression, de l'anxiété, du rapport à la famille et du genre aussi. Et je pense que c'est très important ce que fait Wasla, parce que ça montre que l'accompagnement ne doit pas être seulement administratif ou médical, il doit être aussi humain et culturellement adapté. Et nous, avec Aliatalk, c'est ce qu'on essaie de faire. Ce n'est pas seulement traduire des mots, mais aussi de contextualiser la traduction en prenant en compte la culture du patient. Et parce que la santé, enfin dans la santé ou dans le social ou dans le psychologique, une phrase ne veut toujours pas dire la même chose selon la culture. Et je peux donner un exemple très concret, c'est que dans certaines cultures, on ne dit jamais « je suis en dépression », mais on va dire « je suis fatiguée, j'ai plus d'énergie ». Et en fait, si on traduit juste les mots, on peut passer à côté d'une souffrance psychologique. Un autre exemple, c'est que par exemple, dans d'autres pays ou cultures, certains comportements liés à des troubles mentaux, on les considère, c'est comme si ces personnes-là, ils sont possédées par des démons ou des esprits. C'est pour ça que la traduction doit aussi prendre le compte culturel et la manière dont les personnes expriment leurs émotions. C'est très important.
Merci Siem. En effet, pour exprimer les émotions, on peut aussi utiliser l'art et la culture. Et autour de la table, on a par exemple, comme Léa nous le rapporte très bien depuis tout à l'heure, chez Wasla, on réunit les publics autour d'actions culturelles, autour d'actions artistiques. Ils ont par exemple un ciné-club queer, des cours de danse. Et c'est aussi, Saturin, ce que toi tu proposes autour du théâtre, de l'écriture. Est-ce que selon toi, tu peux nous dire ce qu'apporte l'art et la culture dans l'accompagnement des personnes en situation de migration ?
Ben, en tout cas, moi, je sais que... Et je l'ai vu avec je crois, 36 lettres qu'on a écrites depuis janvier avec les apprenants des cours de FLE des centres Paris à Nîmes que j'ai rencontrés. Je pense que je vais dire quelque chose de très simple, c'est que ça leur fait beaucoup de bien. Tout simplement. Alors après, c'est aussi parce qu'il y a une relation de confiance et que je parlais tout à l'heure du choix du destinataire. Quoi. Tout est là. Quand je leur propose en première rencontre de faire une sorte de petite liste des destinataires possibles, et je sens assez rapidement dans la façon qu'ils ont d'écrire la liste qu'il y a un endroit, soit une personne, soit un souvenir, soit un projet qui est en lien avec un souvenir. Je décèle l'endroit. Il y a un mot qui me venait tout à l'heure en vous écoutant sur les parcours migratoires, du traumatisme, du trauma. Si on parle de santé culturelle des personnes migrantes, je pense que c'est un terme auquel on doit faire face en fait quand on fait un travail avec eux. Encore une fois, en étant très prudent sur une dimension de justification de leur part aussi, qui serait instinctive de. Mais en même temps, moi, voilà, j'essaye quand même, effectivement, je dois m'en rendre compte, et si vous lisez les lettres qui sont exposées là, vous le verrez, il me semble qu'effectivement, là où peut-être, en plus, je peux justement être utile, parce que c'est ça aussi la recherche, pour leur faire du bien, c'est de mettre des mots sur... mais de façon adroite, quoi. Il ne s'agit pas non plus de rentrer de façon frontale dans le trauma, certainement pas. Un auteur de théâtre n'est ni thérapeute, ni quoi que ce soit de cet ordre. Mais ce n'est pas loin quand même, et ça peut faire beaucoup de bien de mettre des mots, surtout par l'écrit, puisqu'il y a une distance à la formulation grâce à l'écriture. C'est pas la même chose que se confier à quelqu'un en le regardant dans les yeux. Tu es seul avec ton papier ou ton téléphone. Je dis ça parce qu'on utilise quand même pour l'instant encore beaucoup d'outils type Google Traduction qui sont quand même bien utiles à ce stade. Mais je rêve d'utiliser la traduction instantanée. Voilà, c'est le mot aussi que j'avais envie de poser, c'est qu'il y a une dimension salvatrice dans l'écriture. Il y a quelque chose, je pense, dans l'écriture qui peut sauver, enfin dans l'écriture, en tout cas dans la formulation de ces traumas et de ces espoirs aussi, parce que là, peut-être que c'est une dimension un peu négative, enfin, ou très dure comme ça à entendre, mais je cherche aussi qu'il y ait une dimension de dépassement. Les êtres humains qu'on rencontre qui ont traversé le Sahara et la Méditerranée ont une force de vie qui est au-delà de ce que, en tout cas pour moi, qui suis né assez confortablement en France, je peux supposer, quoi. et j'essaye de qu'il y ait ça dans leur expression aussi, quoi. Et c'est parce qu'on travaille sur cette force de vie et sur un espoir qu'il y a cette dimension salvatrice, quoi, qui peut sauver.
Merci. On le sait, hein, que poser les mots sur le papier peut guérir les mots. Et tu le fais très bien via ce projet. Chez Wasla, c'est différent. Léa, présente-nous du coup cette manière d'inclure l'art et la culture dans l'accompagnement des personnes en situation de migration.
Je dirais que c'est différent, mais pas tant parce qu'on parle de travail de représentation, on parle de la fidélité des vécus, on parle de vouloir rendre compte de choses qui peuvent faire écho aussi en soi. Et chez Wasla, notamment le fait de proposer une offre de cinéma qui soit portée par des réalisateurs, réalisatrices queer, qui soient aussi des récits de personnes en questionnement ou des récits de personnes qui vivent de belles histoires d'amour homosexuelles. C'est des choses qui permettent aux personnes d'avoir des œuvres qui résonnent dans leur esprit, d'avoir des œuvres qui leur permettent d'accepter leur identité sexuelle ou de genre, les aider à comprendre certaines situations, notamment de questionnement, lorsqu'on a une identité qui n'a pas nécessairement toujours trouvé sa place ou qu'on s'interroge beaucoup, le fait de légitimer ça par des personnes qui peuvent ressembler dans leur vécu ou dans leur manière de réaliser à ce que l'on traverse. C'est quelque chose qui est très important et très, très fort chez Wasla, puisque parallèlement à cela, il y a aussi l'idée de vouloir lutter contre l'isolement, puisque ça permet de réunir des personnes qui sont à la fois intéressées par l'art, mais aussi des personnes qui vont être concernées et qui vont pouvoir raisonner ensemble autour de thématiques dans des espaces qui vont être safe, avec un public qui va être safe, sécurisant, pour pouvoir évoquer tous les sujets, pour pouvoir discuter et poser des questions aussi, parce que les personnes qui réalisent ces œuvres, ces courts et longs métrages sont souvent présentes autour de la table, comme nous aujourd'hui on peut réaliser cette table ronde pour réaliser justement des débats post-projection qui permettent, voilà, d'ouvrir encore la parole et de permettre aux personnes de s'émanciper aussi dans un territoire d'accueil en ayant des vécus en questionnement et des vécus en progression. Le bonus des activités chez Wasla, qu'elles soient artistiques ou culturelles, c'est aussi de permettre un dialogue entre les bénéficiaires, mais aussi les usagers et les personnes de Wasla, qui sont aussi des équipes, afin de pouvoir les aider aussi à trouver parfois des vocations, puisqu'il y a des fois des personnes qui vont aller vers le cinéma ou vers la danse et qui vont ensuite en faire d'abord une passion, mais ensuite en faire leur métier ou en faire... En tout cas, un champ d'activité propre dans leur vie, un moyen d'expression. Ce que font Wasla aussi, c'est de recruter parfois des bénéficiaires qui deviendraient bénévoles et qui pourraient aider à l'organisation des actions culturelles à venir. Donc, que ce soit les ciné-queer, les cours de danse ou d'autres activités, puisque Molka me racontait que le 10 avril prochain, ce sera le 5e anniversaire de Wasla et ce sera réalisé à la boîte de nuit qui s'appelle La Nuit, c'est tout trouvé dans le 9e arrondissement de Paris. C'est une soirée avec une programmation qui va être absolument extraordinaire, mais du coup, où les bénéficiaires de Wasla pourront participer en tant que bénévoles et pourront aussi s'intégrer dans les actions culturelles et artistiques de l'association, avoir encore une fois un moyen d'expression, un moyen de se mobiliser et de se sentir accueillis et partie prenante d'une structure dans leur pays d'accueil. Pour retrouver toutes les informations, Molka me fait transmettre le message que tout est disponible sur l'Instagram wasla.ngo.
Merci Léa de si bien retransmettre toutes ces infos et de nous présenter Wasla la manière dont tu le fais. On se rend compte autour de la table, là, en vous écoutant tous et toutes, que la complémentarité et les alliances entre les acteurs semblent indispensables dans un accompagnement pour prendre en considération tous les espaces et les temps qu'un individu a besoin. Pour revenir sur le côté un peu plus institutionnel, Gaëlle, l'accompagnement des élèves primo-arrivants dépasse aussi les murs de l'école, des familles, avec les familles qui aussi ont besoin d'un accompagnement. Quand je dis les familles, c'est au sens large. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment travaille le CASNAF et comment il collabore aussi avec les autres instances pour accompagner le jeune et tout ce qui l'entoure et tout ce qui l'accompagne, donc sa famille, ses proches, ses amis, son tout.
Oui, pour répondre à ta question, je dirais qu'il est aussi important que chacun reste et cultive ses propres spécificités. Nous, au CASNAV, notre travail, c'est tout ce qui concerne la scolarité, l'apprentissage de la langue et des codes scolaires. Mais évidemment, ce travail d'accueil et d'accompagnement ne peut pas se faire en silo et sans prendre en compte la totalité de ce qu'est un enfant et un jeune. Ça suppose donc, bien évidemment, un travail en lien avec les partenaires associatifs, avec d'autres partenaires institutionnels. Ce travail, il est mené. Ça suppose de se connaître, de se rencontrer, de travailler ensemble et de s'intéresser aux cultures partagées de nos partenaires. Donc, on met beaucoup l'accent sur cet aspect au CASNAV. On se rend dans les locaux des associations avec lesquelles on travaille. On essaie de comprendre leur mode de fonctionnement. On les accueille aussi au CASNAV pour leur faire découvrir nos protocoles, notre manière de fonctionner. Et c'est quelque chose qui est précieux et qui est apprécié, je pense, de part et d'autre. Ça permet de mieux se comprendre et d'éviter toute forme de blocage ou d'incompréhension qui pourrait peut-être se créer. Ça se passe aussi du côté des établissements scolaires où les enseignants travaillent en lien avec les représentants des associations. Tu parlais tout à l'heure des mineurs isolés ou des mineurs non accompagnés. On insiste beaucoup sur ce travail, que ce soit au CASNAV ou dans les établissements, où les choses se font toujours en lien avec les associations qui accompagnent ces jeunes. Du côté de la prise de rendez-vous pour les évaluations, pour le parcours scolaire, les papiers dont ils peuvent avoir besoin, le suivi des rendez-vous scolaires ensuite, tout ce qui est remise des bulletins, accompagnement scolaire, tout ça, ça va passer par les associations. Il est important qu'on se connaisse et qu'on comprenne de part et d'autre comment les choses fonctionnent. Et ça peut se faire aussi en établissement par le biais du relais que sont les services sociaux, les assistantes sociales dans les établissements qui vont travailler aussi avec les partenaires associatifs. Là encore une fois, les choses ne peuvent se faire que si on se connaît, si on se comprend, dans le respect de nos protocoles différents, mais en comprenant comment les uns et les autres nous partageons peut-être des modes de fonctionnement différents, mais un objectif commun qui est la réussite et l'intégration de ces jeunes dans le système français.
Merci Gaëlle. On se rend compte là de la portée de ces initiatives, tous portées par les acteurs qu'on cite depuis tout à l'heure. Mais on est aussi conscient qu'il peut y avoir des obstacles. Et un des obstacles qui peut être parfois compliqué, c'est le lien de confiance. Et quand tu parles de lien de confiance, forcément, Léna, je pense à toi. Dans ton projet, tu avais forcément ce besoin et ce côté un peu obligatoire de créer ce lien de confiance avec les jeunes. Est-ce que tu peux nous dire un peu comment tu as été accueilli, comment ton projet a été accueilli, comment ce lien de confiance a été mis en place progressivement?
Oui, et déjà je suis venue plusieurs fois à Lille, en tout cas ça s'est pas fait, j'ai pas fait ce documentaire en une fois, j'y suis allée en tout trois fois, j'y suis allée à chaque fois plusieurs jours, et à chaque fois je suis allée dans les lieux que fréquentaient les jeunes en dehors de leur mobilisation. Donc d'abord, je suis allée aux permanences d'Utopia 56, où je suis venue, où mon amie Marie, qui est coordonnée de l'antenne, m'a présentée aux jeunes. Donc déjà, je pense que ça m'associait quand même à un certain gage de confiance d'être présentée par la coordinatrice. Je suis allée faire des jeux avec eux. Enfin voilà, on a pris le temps de se connaître. Moi, j'avais mon micro. Et du coup, je le laissais aussi pour que c'était assez intriguant. Du coup, je leur ai un peu montré comment ça marchait. Je les ai laissé un peu aussi l'utiliser pour que ce soit un peu marrant, quoi, aussi. Et après, juste, j'ai suivi les jeunes dans toute leur mobilisation, quoi. Donc, je suis allée à leurs assemblées générales. Je me suis aussi présentée aux assemblées générales. Je leur ai demandé si je pouvais enregistrer. Eux, ils m'appelaient la journaliste. Enfin, à la fin, ils m'avaient quand même bien identifiée. Et surtout, à force de revenir aussi, je pense que ça a consolidé des liens que j'ai eus avec certains jeunes. Moi, notamment beaucoup les délégués, parce que c'est un collectif qui fonctionne avec des représentants qui sont les délégués du collectif, qui portent la parole des jeunes ailleurs. Et du coup, c'est des jeunes que moi, j'ai beaucoup vus, parce que comme j'allais à certaines de leurs actions qui étaient même quasiment de la désobéissance civile, aux manifestations, aux rassemblements, etc., au bout d'un moment, on s'est bien rencontrés, je pense. Et je pense que ce qui a joué aussi, c'est que moi, j'ai jamais caché que je les soutenais, que j'étais de leur côté, quoi. J'ai jamais prétendu avoir une sorte de neutralité journalistique qui me plaçait en dehors de leur lutte. Moi, je leur ai aussi expliqué que j'avais été bénévole à Lille. Enfin, je connaissais aussi des bénévoles. Enfin, certains jeunes aussi, avec qui je suis encore en contact, qui sont majeurs aujourd'hui, mais qui repassent parfois dans l'antenne. Enfin, voilà, je pense que c'est pas le même positionnement aussi que de leur dire, bah, en fait, je suis vraiment de votre côté et j'espère vraiment que ça va marcher pour vous parce que je trouve que ce qui vous arrive est injuste. Donc, c'est ça a créé, je pense aussi peut-être. Je pense que ça met à l'aise aussi pour eux de ne pas être face à des journalistes qui peuvent être peut-être un peu plus froids ou plus hostiles ou qui vont mettre de la distance et traiter quelque chose d'une manière très éphémère, très ponctuelle le jour J, qui vont venir une heure avec quelqu'un qui revient. Et moi, des fois, ils m'écrivent pour me demander quand est-ce que je reviens. Donc, ça me fait plaisir.
Bon, bah, c'est que c'est gagné. En tout cas, je fais de la pub hein, vraiment pour Léna. Allez l'écouter, c'est vraiment intéressant et on le ressent vraiment, ce lien de confiance. C'est très immersif et on sent vraiment que t'es noyé dans la foule, quoi. Et en fait, t'as réussi ta mission. Je reviens vers toi, Gaëlle, pour parler un peu des familles. On sait que les portes des écoles peuvent être un peu compliquées à franchir pour les parents. Pour les familles, donc tout à l'heure on parlait de la barrière de la langue, là on parle du lien de confiance. Cela peut parfois conduire à une forme d'inversion de responsabilité parent-enfant-enfant-parent. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui est mis en place aujourd'hui pour faciliter justement cet accès?
Oui, on est effectivement conscient de ce risque, de ce danger de l'inversion du rôle parent-enfant. Et c'est vrai que dans le parcours scolaire, dans le parcours d'accueil des élèves allophones, l'accent est mis aussi sur l'accompagnement des familles et des parents. Ça peut passer par un accueil spécifique dédié lors de l'inscription des enfants dans les systèmes scolaires, où on va vraiment prendre le temps de déplier vis-à-vis des parents tout ce qui concerne la présentation d'un parcours, leur expliquer le système scolaire français, tout simplement. Si on peut dire. Parce qu'il y a des choses qui nous paraissent à nous, enseignants, évidentes, mais qui ne le sont pas du tout pour des parents qui viennent d'arriver. Donc ça, c'est le premier volet dont je peux parler pour répondre à ta question. Et le deuxième, c'est pour moi l'occasion de présenter le dispositif « Ouvrir l'école aux parents pour la réussite des enfants » qui est également porté par le CASNAV. Ce dispositif permet de dispenser des cours de français aux familles dont les enfants sont scolarisés dans l'académie. C'est un dispositif qui existe dans toute la France. Hein. Je parle du dispositif parisien parce que c'est celui que je connais, mais ça existe dans toute la France. Et grâce aux ateliers Ouvrir l'école aux parents, les familles peuvent bénéficier donc de cours de français qui sont axés sur la question des enjeux de la scolarisation. Donc ça veut dire qu'on va aussi apprendre à ses parents à prendre un rendez-vous avec l'enseignant, à utiliser le carnet de correspondance, à remplir un formulaire d'autorisation de sortie, enfin toutes ces actes de langage et d'écriture qui sont indispensables pour la réussite de leurs enfants. On va permettre aussi aux parents de se préparer aux examens de l'enseignement du français aussi. Et voilà, ça fait partie des actions en fait menées par le CASNAV qui sont à la fois à destination des enfants et à destination des familles pour justement rendre ces barrières moins infranchissables et favoriser la réussite des familles et des enfants dans le système scolaire.
Merci beaucoup Gaëlle. Les enjeux autour des questions migratoires sont souvent mouvants et au centre d'une actualité. Saturnin, tu l'expliquais tout à l'heure, qu'Hercule et les missives a été créé en 2022, en 4 ans. Est-ce que tu as observé des évolutions dans la réception de ta pièce par les publics, que ce soit les publics qui viennent voir la pièce, que ce soit les apprenants, même les profs? On peut dire ça aussi, et ou dans les thématiques abordées au sein de tes ateliers d'écriture par ces personnes.
Ben, sur la question de la réception du spectacle, on le tourne beaucoup en établissement scolaire, en tout cas la version qu'on joue ici ce soir, qui est la version seule en scène, qui est autonome techniquement, qui peut jouer un peu partout. Les spectateurs se renouvellent à chaque fois, puisque c'est des nouveaux quatrièmes, c'est souvent à partir de la quatrième, puisque les migrations sont au programme à partir de la quatrième. Donc c'est des nouveaux spectateurs qu'on est très heureux de, à chaque fois je veux dire c'est des nouveaux spectateurs qu'on est très heureux de, on l'a encore vu ce matin, c'était des cinquièmes, bien préparés, très heureux de sensibiliser à la question du droit d'asile. Il y a une dimension de fait, peut-être pas pédagogique mais éducative en termes de citoyenneté qui me tient très, très à cœur, quoi. Et après l'autre version, parce qu'il y a une autre mise en scène aussi de Hercule et les missives, qui est une version dans laquelle les lettres sont jouées au plateau, lues et jouées au plateau par des personnes exilées. Et cette version là moi de ce que je ressens, on la joue moins régulièrement, forcément, parce qu'elle est plus dure à mettre en œuvre avec les théâtres partenaires. Mais ce que je ressens, c'est des publics militants de plus en plus acquis à la cause, de plus en plus en lutte. Parce que je pense qu'on ne peut pas aussi parler de tous ces sujets sans penser à ce qui se passe politiquement dans notre pays, quoi. Quand une façon de répondre à la question, c'est que en 2018, quand on a commencé ce travail-là, on n'aurait pas pensé que le Rassemblement national, aux dernières législatives anticipées, allait peut-être obtenir la majorité absolue. Voilà. Et donc, c'est quand même important de le rappeler. Les spectateurs qui viennent de façon non captive, parce que les scolaires sont forcément des spectateurs emmenés par les professeurs. Alors, les professeurs aussi sont très, très engagés et très soucieux que leurs élèves soient confrontés à d'autres façons, comme tu disais d'ailleurs, de considérer les demandeurs d'asile. Et les publics adultes qui viennent voir la version assise interprète sont de plus en plus mobilisés, engagés. Voilà. Après, le rêve aussi, ça serait de jouer ce spectacle devant les électeurs du Front National. Mais c'est la limite du théâtre. On ne peut pas obliger qui que ce soit à venir au spectacle. Voilà, est-ce que ça répond?
Oui, tout à fait.
À la question sur il y avait une autre question, oui, sur les
ateliers d'écriture, ouais, sur les personnes exilées. D'écriture. Oui, tout à fait.
En fait, c'est très différent. Là, je peux faire une réponse qu'empirique. C'est très différent selon... Dans les centres d'accueil de demandeurs d'asile, en fait, les personnes sont réparties par la préfecture. Mmh. Donc, certaines années, il va y avoir telle nationalité, oui, telles origines et d'autres... Il y a juste une anecdote, ça me permettait de... Enfin, ça me fait... La question de l'homosexualité... m'a fait penser qu'il n'y a pas longtemps, là, en janvier, j'ai écrit deux lettres avec deux jeunes de Sierra Leone qui ont fui leur pays du fait de leur sexualité, homosexualité. Et voilà, il faut qu'on ait conscience qu'ils ont fui leur... Ils ont écrit une lettre à leur père. D'ailleurs, ils ne se connaissaient pas. Ils ont écrit quasiment la même lettre. Ils venaient de la même ville, mais ils ne se connaissaient pas. L'être à leur père, parce qu'en fait, c'est leur père qui aurait pu les tuer. Je voulais juste dire ça, parce que tout d'un coup, quand on est en France, avec nos clés de lecture, ça nous paraît impensable, mais voilà. Donc, des fois, il y a, selon les nationalités, en fait, qui sont... répartis dans telle région des CADA, parce que tout ça, ça se fait de façon nationale. On rencontre les mêmes personnes et enfin, des personnes qui ont les mêmes problématiques. Et puis après, ça change l'année d'après parce que c'est d'autres demandeurs d'asile, quoi. Voilà.
Ce dernier témoignage me permet aussi d'ajouter qu'au-delà de l'écriture, en fait, l'ensemble de vos actions contribuent à déconstruire des imaginaires, à déconstruire des images qui sont transmises, qui sont effectivement construites politiquement aussi. L'ensemble de vos actions vont vers le plus réel des personnes. Et effectivement, c'est aussi un engagement politique que d'aller en contre-pied de ce qu'on voudrait présenter publiquement et politiquement. Et pour ça, c'est aussi une occasion de vous remercier, alors que notre table ronde va bientôt se conclure et toucher à sa fin. Mais avant de se quitter, j'ai quand même un dernier défi pour vous. S'il n'y avait qu'un seul message à retenir, que ce soit pour nos auditeurs et nos auditrices qui pourront nous écouter à partir de ce dimanche, ou pour toutes les personnes qui nous écoutent et qui nous regardent actuellement, qu'on enregistre cette table ronde et que nous saluons, quel serait-il ? Qu'est-ce que vous aimeriez dire en dernier et que nous retiendrions ? Siem, est-ce que tu souhaites commencer ?
Pour moi, je pense que la langue, ce n'est pas seulement un outil de communication, c'est un outil pour exister dans la société. Donc, quand on ne peut pas s'exprimer, on ne peut pas expliquer sa douleur, on ne peut pas défendre ses droits, on ne peut pas être autonome. Et je pense que c'est pour ça que des structures comme WASLA et des outils comme Aliatech sont complémentaires et qu'à notre échelle, on essaie tous d'apporter un changement pour que la barrière de la langue et la barrière culturelle ne soient plus une barrière aux droits et à la dignité. Et d'ailleurs, vous pouvez télécharger tous l'application sur App Store, Play Store, version web aussi. Et pour l'occasion, je vous laisse un code pour la tester, pour l'essayer, pour nous faire un retour aussi s'il y a des améliorations. C'est le code GH900, GH majuscule. Voilà.
Merci. Léna, tu veux prendre la suite ?
Moi je dirais qu'il faut continuer de se mobiliser. Bien sûr, chacun, chacune à hauteur de ses moyens, si c'est par faire un don, si c'est par de l'action directe, indirecte, etc. Et je pense aussi surtout à un point précis, c'est le poids qu'on peut avoir en tant qu'électrice. Et là, je rejoins un peu ce que tu disais, Saturnin, tout à l'heure. En tout cas, nous, on a remarqué qu'à Lille, un des facteurs qui avait joué dans le fait que les jeunes obtiennent des hébergements, c'est aussi qu'il y a eu un collectif d'habitants qui localement s'est créé pour les soutenir. Et qu'en fait, c'est aussi ça qui a fait bouger des lignes à l'échelle municipale. Parce que après, c'était un contexte préélectoral. Du coup, c'était un an avant les élections qui ont eu lieu ces deux dernières semaines. Mais du coup, ça a vraiment mis un coup de pression sur les élus de voir qu'en fait, il y avait des Français qui votent et qui s'intéressaient à ces questions-là. Et du coup, je pense qu'on a aussi on a plein de leviers différents pour agir, mais on a aussi ce levier-là de profiter du fait d'avoir la nationalité et de pouvoir voter aux élections pour pouvoir quand même mettre la pression sur la vie politique. Après, moi, je pense qu'il y a vraiment bien d'autres enjeux que la vie politique, mais que c'est un levier qui est quand même très important et qu'il ne faut pas sous-estimer, d'autant plus qu'on approche quand même des présidentielles.
Merci. Tu veux pas en profiter pour nous dire où on peut écouter ton nom quand même ?
Bien sûr. Jeune en exil, mineur en lutte, il est disponible sur toutes les plateformes d'écoute de podcast. Du coup, Deezer, Spotify, Amazon Music, Apple Music, SoundCloud, YouTube, je l'ai peut-être déjà dit. Voilà, c'est disponible partout. Du coup, moi, je m'appelle Léna Chavanne et le podcast, c'est Jeune en exil, mineur en lutte.
Merci. Gaëlle.
Moi, je vais profiter de ce mot de conclusion qui nous est offert pour témoigner de mon admiration et de ma reconnaissance à la fois aux enseignants qui travaillent en UPE2A ou dans les classes ordinaires pour accueillir et faire réussir les élèves et mettre en place des approches pédagogiques les plus variées, les plus diversifiées possibles pour permettre à ces élèves et à leurs familles de réussir. Ça passe aussi par un travail administratif, d'affectation, de suivi de ces élèves. Donc, ça me permet de les remercier et puis dire aussi mon admiration des élèves eux-mêmes. Parce que ce qu'ils accomplissent en très peu de temps et dans des conditions de vie et avec des parcours dont on a souligné les difficultés et les obstacles, ces élèves-là réussissent à acquérir des notions de français, de scolarisation qui leur permettent d'avoir des parcours incroyables. Donc, c'est toujours très, très beau et très émouvant de savoir ce qu'ils deviennent, comment ils progressent en si peu de temps et en contournant tous les obstacles qui sont dressés devant eux. Donc, certes, ils bénéficient d'un accompagnement remarquable, mais par eux-mêmes, ils arrivent à faire des choses incroyables. Donc, bravo à eux.
Merci et bravo à eux. Saturnin, à toi.
Eh bien, moi, j'ai envie de citer une phrase du personnage d'Hercule dans le spectacle qui dit « C'est ainsi que j'en suis venu à considérer que l'exil, quelle que soit sa nature, demande d'asile ou immigration économique, ne peut être considéré comme abusif. »
Merci.
Bien dit.
Bien
très
dit,
belle
merci.
Phrase qui donne envie de découvrir le spectacle. Pour ma part, je vais donc porter la voix de Molka, que je salue de nouveau, avec un message que je rejoins parfaitement, qui nous dit que nous avons la chance en France d'avoir un tissu associatif riche et diversifié. Adhérez, découvrez les associations, informez-vous et peut-être qu'un jour, au détour d'une discussion, vous pourrez aider une personne avec l'information qui manque à son parcours. On a toutes et tous un rôle à jouer dans l'accompagnement des personnes exilées, que ce soit par le partage, que ce soit par notre expertise, que ce soit par nos connaissances, qu'on soit de l'institution, qu'on soit du milieu associatif, qu'on soit autour de cette table à simplement témoigner. On est tous et toutes présents pour des parcours migratoires. On peut toutes et tous avoir notre rôle à jouer. Et c'est ainsi que cette table ronde touche à sa fin. Donc déjà, merci à toutes et tous de votre écoute, que ce soit ici à la Maison des Réfugiés en cet après-midi du jeudi 26 mars ou sur la radio Montparis FM. Merci à vous Gaëlle, Siem, Léna et Saturnin pour ces échanges qui ont été très précieux, très inspirants et qui donnent de l'espoir en l'avenir. Merci Molka hein, de nouveau qui n'est pas présente parmi nous mais de s'être autant intégrée dans ce projet, d'avoir mis tout cet engagement. Merci au Centre Paris Annie Moudinet de nous avoir permis d'enregistrer cette table ronde. Donc, merci Willy. Cette table ronde, elle est à retrouver en rediffusion sur la radio Montparis FM ce dimanche à partir de 15h pour la première partie et la seconde partie dimanche prochain, donc le 5 avril également à partir de 15h. À 17h30, retrouvez l'inauguration de l'exposition Missive, visages et récits de parcours de migration ici à la Maison des Réfugiés, suivie à 19h d'une représentation seule en scène d'Hercule et les Missives. Bon après-midi à toutes et à tous.
Merci.
Merci.
Merci Nassima.
Merci à vous.
Merci tout le monde.
Mon Paris est fait.